Salut à tous et bienvenue dans votre podcast. On commence tout de suite par remercier nos trois partenaires qui permettent de faire tourner la chaîne YouTube, mes articles, etc. Tout d'abord, bien sûr, Petromax qui fabrique des accessoires de cuisson extrêmement robustes ainsi que des vêtements, notamment des vêtements en loden, en laine bouillie, c'est imperméable. Et là, ils vont lancer une gamme de vêtements avec un bermuda en velours côtelé. Dit comme ça, c'est pas sexy, mais en réalité, c'est juste que ce sont des vêtements extrêmement robustes. Donc, quand vous achetez un accessoire Petromax, il va vous durer toute une vie. C'est la qualité allemande. Deuxième partenaire, je suis très fier d'avoir été contacté par eux, il s'agit de Garfitan. C'est une toute nouvelle marque suédoise qui produit des vêtements outdoor, donc que vous pouvez porter pour le bushcraft, mais aussi pour le travail. Ce sont des vêtements extrêmement résistants et surtout, ils sont produits en Europe. Donc, ils ne vont pas venir par container d'Asie, par exemple. Et surtout, ce n'est pas des petits-enfants qui vont les coudre. Bref, Garfitan, c'est une toute nouvelle marque. Vous connaissez certainement une autre marque de vêtements suédoise avec un petit renard pour logo. En gros, Garfitan prend le renard, lui casse toutes les pattes, lui fait un German suplex et lui écrase la gueule d'un coup de pompe également, puisque les tarifs sont très raisonnables et la qualité est largement supérieure. Quelque part, c'est sans surprise, parce que derrière Garfitan se cache Johan Skullman, qui est un instructeur de survie vraiment très renommé en Scandinavie. Et enseigner la survie là-bas, c'est quand même autre chose que en France, sous le beau soleil du midi. Dernier partenaire également, Clean Hugs, qui fabrique des soins et des cosmétiques pour les sportifs, donc notamment des savons biologiques avec des ingrédients 100% naturels, des dentifrices solides, des shampoings solides, etc. Donc en fait, c'est l'idéal lorsque vous partez en bivouac, plutôt que de vous encombrer de tubes de dentifrice en plastique, de gel douche qui coule partout et qui se renverse dans le sac, comme ça a pu m'arriver. Donc là, au moins, vous avez tout de solide, ça rentre dans une petite boîte en aluminium, il n'y a aucun emballage plastique, bref, c'est respectueux de l'environnement également, en plus d'être respectueux de votre peau. Donc voilà, merci à Clean Hugs, Garfitan et Petromax. Tout de suite, vous allez retrouver votre podcast avec Christophe Guillemet, qui nous fait de la reconstitution historique. Un sacré loulou, mais un mec adorable à qui je dois beaucoup. Écoutez bien.
Ah tiens, il a l'air bon, oui, t'as raison.
Par contre, tu remarqueras que c'est pas du tout des tasses 18e siècle.
Je suis sûr que si on fout bien,
c'est même pas des tasses bushcraft en réalité.
On fouille bien, on en trouve, je suis sûr que c'est sourcé.
Alors, 18e siècle, c'est quoi ce déguisement là, Christophe?
Alors déjà, si tu dis déguisement, on va pas être copain, tu vas pas être copain dans le milieu de la reconstitution parce qu'on dit généralement costume, ou tenue. Parce que déguisement, bah, tu te déguises en Batman, tu te déguises en Spider-Man, tu te déguises en infirmière. Tandis que là, c'est vraiment un costume qui est sourcé, comme à l'époque, hein, 18e siècle, milice continentale américaine. Donc tout a été sourcé à partir soit de l'iconographie, à partir de ce qu'on a pu retrouver dans les musées. À partir de ce qu'on a pu retrouver en fouille, pour ce qu'on peut retrouver en fouille, par exemple, la chape du poignard ou des choses comme ça. Donc, non, généralement, on dit costume ou tenue.
Donc, dans ce costume, est-ce que ça a été pensé pour être dans les bois? Parce qu'en fait, là, c'est où est la limite entre la reconstitution et le bushcraft?
Oui, alors... Là, on va dire que c'est une tenue de milice continentale, de personne d'un minuteman, ça peut être un artisan, un commerçant.
Un minuteman, est-ce que tu peux définir ça?
Alors, minuteman, homme minute, puisque les minutemen étaient censés pouvoir prendre leur mousquet, leur équipement, et être prêts très rapidement au cas où il faille prendre le maquis pour aller faire un carton sur les tuniques rouges.
D'où le nom aussi des missiles intercontinentaux nucléaires.
Voilà.
Minuteman.
Okay. Exactement. Ah. Donc là, effectivement, c'est la tenue de ce qu'on va appeler quelqu'un de la classe moyenne, un artisan ou commerçant, qui aurait pris son mousquet pour aller faire un carton sur le... Donc c'est pas ce qui est le plus adapté. Donc vous voyez, avec les chaussures à boucles plates, Généralement, dans ces cas-là, on les porte avec des guêtres pour éviter que les saletés rentrent dedans. Mais sinon, la tenue de coureur des bois sera un petit peu plus adaptée, notamment avec ce qu'on appelle la hunting shirt en lin, où il pourrait y avoir le pantalon avec. Donc ça, on la porte par-dessus. Donc c'est vraiment une veste, tout ce qu'il y a de plus basique en lin, cousue très rapidement, avec des franges un petit peu partout pour que ça sèche plus vite, et puis ça offre un petit effet de camouflage. On pourrait dire que ça fait même penser à la Gillis 8. Donc à part la hunting shirt, voilà, c'est pas une tenue hyper adaptée pour courir les bois, mais ça a été utilisé pour ça, avec l'équipement spécifique. Là, on a, pour faire le lien avec le bushcraft, la reconstitution historique, sur toute cette période-là, on va retrouver tout l'équipement bushcraft, mais vintage, d'époque. Donc là, il va y avoir...
Ouais, alors là, juste la tente 2 secondes de Quechua est en sueur, là, parce que maintenant, il y a le bedroll.
Le bedroll. Alors, le bedroll, qui remplace la tente, qui peut remplacer la tente 2 secondes Quechua, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez votre bedroll. Là-dedans, il y a une couverture, un tarp qui est en toile huilée et un bout de toile de tente en coton qui permet de maintenir le tout. Dans le bedroll, on peut même éventuellement, ça peut servir de substituer un sac à dos, parce qu'on peut tout à fait mettre à l'intérieur du bedroll une tenue de rechange, du linge de rechange, une trousse de toilette, enfin tout ce qu'on veut, du moment que c'est réparti de façon assez plate. Et puis c'est lié avec une corde, avec un mélange de nœuds et puis une sangle. Donc les cordes, on peut tout à fait les utiliser au campement pour tendre le tarp ou autre chose, avec une sangle de portage. Et voilà, la tente Quechua.
Donc c'est quoi, ça fait un bon boudin de quoi, 60, 80 cm?
Oui, à peu près de longueur 60. Bon, ça peut être, on peut le faire plus serré. S'il est plus serré, il sera plus, plus gros. Je crois qu'on le fait varier.
Là, on est sur quoi, 30 cm de diamètre? Oui, à peu près. Grand diamètre, quoi.
Voilà. Donc après, on peut le faire varier la dimension selon ce qu'on transporte autrement. Parce qu'après, il y a le havresac, qui n'est pas en nylon ripstop, qui est en gros coton.
Ni en cordura.
Voilà.
Et, ou pas en kevlar, même.
Exactement.
Il y a des marques qui se targuent de faire des sacs à dos avec du kevlar.
Ah, ils arrêtent les balles?
Ouais, ce qui n'empêche pas qu'ils se déchirent quand même.
Donc, à l'intérieur du sac à dos, comme tout adepte du bushcraft, vous avez votre linge de rechange, c'est une chemise de rechange, des bas de rechange, les fameuses guêtres dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et puis, comme s'il fait un petit peu frais, on prend le manteau, enfin ce qui s'appelle le juste corps.
Ah, ils appellent ça un juste corps.
Oui, tout à fait.
Ils font tout à l'envers, les Américains.
Exactement. Et donc, ce qui permet en plus de donner un certain cachet. Donc effectivement, on voit que ça, là, c'est plus la tenue civile, pas vraiment adaptée pour la... Mmh. Pour courir la forêt. Donc voilà, j'ai laissé mon petit magasin en ville pour aller cartonner de langoulois.
Ah ils l'ont bien cherché, remarque. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder?
Exactement, exactement. On leur a déjà balancé leur thé à Boston. Ils vont pas continuer à nous enquiquiner. Donc je dirais que je continue. Au niveau de l'équipement, on a aussi ce dont on se sépare jamais. Le poignard, qui n'est pas...
Alors celui-là est une vraie... Enfin, c'est une reconstitution d'après...
C'est tout à fait.
Des poignards retrouvés.
Voilà. Ça fait partie des reconstitutions d'après des pièces de fouilles. Donc, la forme de la lame est spécifique. Alors, c'est vrai qu'on dirait presque un couteau de boucher.
C'est vrai qu'on dirait un couteau de cuisine, en fait, vu comme ça.
Voilà. Je m'en sers pour faire la cuisine à la maison. Il coupe très bien, donc c'est très bien pour...
Monsieur pousse le vis jusque dans ses derniers retranchements.
Je suis très vicieux. Avec le manche en bois d'érable, veiné, et également la chape du couteau est une pièce de fouille, ça, la reconstitution d'une pièce de fouille. Donc toutes les pièces métalliques, tout ce qui ne peut pas être tissu, effectivement, c'est refait à partir de pièces de fouilles, bien souvent.
Après, juste parce que je pouvais ressortir le couteau. Est-il adapté à un usage pour les bois?
Alors, sincèrement...
Dans la vie de tous les jours à l'époque, ça servait à quoi en fait?
Dans la vie de tous les jours, bah, on s'en servait un petit peu pour tout, hein, aussi bien pour la cuisine que pour manger. Mmh. Là, ça s'appelle le long thread knife, avec l'accent en plus. Sincèrement, je le trouve un petit peu fragile pour une utilisation en bushcraft. Alors celui-ci, alors peut-être que ceux de l'époque étaient mieux forgés, mieux adaptés. La lame est fine pour un couteau de bushcraft. Il semblerait que ce soit le cas hein, de celle qu'on a retrouvée. Alors, il faut savoir que le même couteau, moi, je l'ai, en faisant du bâtonnage, le même couteau, je l'ai cassé net au niveau de la manche.
Alors, est-ce que avec le manche. Ouais.
Voilà. Alors, est-ce que c'était un défaut de fabrication ou est-ce que c'est moi qui ai tapé comme un bœuf? Je ne sais pas. Mais voilà, ça reste moins adapté, je trouve, que le couteau actuel. Même si, voilà, ça quand même, c'est quand même
une bonne lame. En même temps, on n'est pas du tout à la même époque.
Tout à fait.
Et de nos jours, quand on veut aller vraiment bâtonner, c'est qu'on le cherche, quoi. C'est,
oui.
C'est qu'on ne veut pas rester devant Netflix à manger des chips, quoi.
Exactement. Et puis, je pense que à l'époque, y a-t-il besoin de bâtonner quand on a la hachette, ouais, qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut savoir que là, on s'amuse à bâtonner. Pour nous, c'est presque un loisir.
C'est complètement un loisir.
Que de bâtonner. Alors qu'à l'époque, bâtonner, c'était un geste quotidien. Ouais. Donc on allait bâtonner, non pas avec un couteau, mais on allait plus bâtonner avec une hachette, une pierre, tout ce qu'il fallait. Donc c'est ça l'avantage du bushcraft. C'est vraiment. Enfin, bushcraft et reconstitution historique, parce que là, on va vraiment se remettre dans la peau des personnages de l'époque et faire comme si lorsqu'on fait un week-end où on va vivre comme à l'époque, on va être dans la verte pendant 2 jours à vivre comme au 18e siècle, comme une autre époque, les gestes du bushcraft seront des gestes de la vie quotidienne d'alors. Tu disais je crois dans ton livre ou je ne sais où que le bushcraft c'était se réapproprier des gestes anciens. Et là, on mesure à quel point le bushcraft, c'est vraiment ça. On se réapproprie des gestes anciens, puisque ces gestes-là, nous, on vit au quotidien, au niveau de la reconstitution historique, qu'on veut faire de la vraie reconstitution dans la nature, etc. Ce sont vraiment des gestes du quotidien, ne fût-ce que pour refaire, que pour allumer du feu, que pour refaire des allumettes, comme on l'a fait tout à l'heure. Ou d'autres choses.
Pour cuisiner. Même pour dormir. Hein,
parce que... Oui, pour dormir, on a la couverture, on a le bedroll, on va attendre notre tarpe en coton huilé fait maison. Donc, tu pourras faire montrer dans une prochaine vidéo, faire un tuto, c'est très bien. Donc là, c'est vivre comme à l'ancienne. Et je dirais que on va pousser le vice, lorsqu'on vraiment se met dans la peau du personnage, on va pousser le vice à reconditionner la nourriture. Comme à l'époque, de façon à être histo à fond et se mettre vraiment réapprendre, se réapproprier les mêmes gestes qu'à l'époque. Donc ouais, les chips, c'est proscrit.
Ouais. Et même, je pense que si les gestes, ils ont toute leur importance dans la mesure où tu peux pas compter sur la technologie en fait. Oui. Car le tarp en nylon siliconé, tu le mets là où je pense. Les membranes imperméables comme le Ventile ou le Gore-Tex, bon bah t'oublies.
Exactement.
Du coup, je pense que t'as aussi une autre philosophie vis-à-vis des éléments, quoi.
Oui, on se retrouve beaucoup plus humble vis-à-vis des éléments. Parce que la laine, ça va, si elle est bien serrée, si il y a une bonne trame, elle va prendre un certain temps avant que la flotte traverse. Mais une fois que c'est traversé, Donc effectivement, on ne va pas pouvoir affronter les éléments de la même manière, mais ça nous permet aussi une démarche presque philosophique, où ça nous permet de savoir qu'il fallait, à l'époque, vraiment être beaucoup plus humble que maintenant vis-à-vis des éléments, et avoir une certaine relecture peut-être de l'histoire, parce que ce qui nous montre bien que ce qu'on peut voir, notamment dans les films, il y a quand même une distance qu'on expérimente en réel ce que pouvait être la vie à l'époque, mmh. avec toutes les difficultés au niveau, par exemple, du climat ou autre, on peut se demander si certains films poussent vraiment la réalité de certains films, on peut vraiment la remettre en cause. Mais enfin, ça, c'est pas nouveau. Un film, ça reste un film. Hein. Ça reste du divertissement. On va pas faire un film pour là, en ce qui concerne la période révolution américaine, par exemple. On va pas faire le film The Patriot. Voilà. Ça reste du divertissement, même si The Patriot est très bien fait, notamment au niveau des tenues. Voilà. Et on devient beaucoup plus humble également par rapport à ce qu'ont pu traverser tous nos aïeux, que ce soit à travers les guerres ou même à travers leur vie quotidienne.
Quand on repense aux pionniers, notamment aux États-Unis, qui ont franchi, enfin la course vers l'ouest, là, qui ont franchi les Rocheuses, etc., qui se sont retrouvés bloqués par la neige, qui se sont entrebouffés d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, certains.
Comment ça s'appelait le Donner Party, c'est pas ça, tu sais, le petit groupe qui s'est retrouvé bloqué par la neige dans un tout petit abri
et qui ont fini
par se manger les uns les autres. Là.
Voilà,
c'est
un peu le...
C'est là que tu te dis, tu veux aller faire du bushcraft, ok, vas-y, tu vas un week-end dans les bois, t'es content, tu y vas, tu fais ta petite côte de bœuf au feu de bois, tout est gentil, tout est mignon, mais quand c'est ta réalité et que tu dois réellement, au jour le jour, avancer dans un milieu que tu connais pas, où en plus il y a des ours, il n'y a pas de réseau de téléphone et puis tu peux pas poster tes photos sur Instagram, c'est quand même une autre question.
Oui, et ça nous pousse d'autant plus à être encore plus humble parce que nous c'est vrai que même lorsqu'on fait un week-end reconstitution où on va vivre un jour, deux jours, comme les conditions de l'époque, ce sera deux jours. Si quelqu'un se blesse, on va ressortir le téléphone s'il y a du réseau,
si
on n'est pas complètement dans la verte. On va ressortir le téléphone qui va être au fond du sac, on pourra appeler les secours. On sait très bien que le dimanche soir, on va pouvoir retrouver la douche chaude, notre lit, etc. Donc, ce ne sera qu'une expérience de la vie de jadis et de toutes les difficultés que nos aïeux pouvaient rencontrer. Donc, effectivement, ça nous permet une meilleure connaissance, ça nous permet d'être très humble par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, eux, c'était leur quotidien. Et quand bien même on puisse rencontrer des difficultés à travers la reconstitution historique ou à travers les bushcrafts, ce sera vraiment qu'une petite partie de ce qu'eux ont pu vivre. Mais je persiste à dire, comme tu le disais, que c'est vraiment une réappropriation des gestes du passé pour allumer un feu. En bushcraft ou en reconstitution historique, je dirais que rien ne change, si ce n'est qu'au lieu d'utiliser un fire steel, on va utiliser un briquet à silex.
Oui, c'est...
Mais c'est la même, c'est exactement la même chose. Tu parlais du tarp, ce n'est que le changement de support matériel. Toi, tu as un tarp en nylon, moi j'ai un tarp en toile huilée.
Et de toute façon, on le voit bien, depuis le début de l'humanité. Le progrès, c'est juste une amélioration de ce qui s'est fait avant.
Oui, tout à fait.
Donc là, par exemple, pour les méthodes de feu, le fire steel, si je ne m'abuse, c'est quoi? C'est 1903. Je crois que c'est 1903 le mélange avec le ferrocérium. Il ne produit que des étincelles. Donc en fait, c'est juste l'évolution technologique du briquet à silex.
Oui.
Donc briquet, ce qu'on dit médiéval, alors ce qui est totalement faux en plus, parce que c'est un briquet en métal qui a été fabriqué depuis l'âge des métaux.
Oui.
Donc briquet en fer, et lui-même le briquet de fer contre le silex, ce n'est que l'évolution du fameux briquet pyrite ou alors marcassite, donc des minéraux ferreux qui eux fonctionnaient également, qui ne créaient que des étincelles. Donc on a cette progression là jusqu'à nos jours pour tout en fait, même pour les vêtements.
Oui, tout à fait. On n'invente rien, on ne fait qu'améliorer ce qui a été fait. Bon, bien sûr, on va inventer des choses au niveau technologie, mais pour reprendre ces choses-là, ce n'est qu'une petite amélioration. Et justement, alors, ce qui m'avait frappé à ce sujet, c'est un archéologue qui me disait que la plupart de ces inventions-là, à l'origine, avaient sans doute été faites par des enfants, puisque les hommes, chasseurs-cueilleurs, etc., avaient bien d'autres choses à faire qu'à se pencher sur comment on va faire du feu, comment on va tresser une corde, etc.
Partir du moment où tu as déjà un système qui fonctionne, en fait.
Pas forcément. Je prends l'exemple du feu, ou de la pierre polie, ou de n'importe quoi, pour remonter un petit peu plus dans le temps. On s'aperçoit, l'archéologue qui nous expliquait ça disait bah, que pourquoi, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait des étincelles qu'on tapait certaines pierres contre une autre, parce que des enfants s'étaient peut-être amusés à le faire. Pourquoi on a appris à faire une corde? Sans doute parce que des enfants s'étaient amusés à tortiller des parts. Enfin, c'est une des théories de ces évolutions-là. Et après, effectivement, là où ça va se... On va améliorer les choses. Une fois que l'outil sera en place, effectivement, là, on va l'améliorer par des chercheurs.
Ah, le raffiner. Mais, ouais. Le feu, de toute façon, c'est... Je trouve que le feu, c'est vraiment central. Toutes les civilisations.
Exactement.
Et du coup, ces gens-là, là, de ton époque, là, ils allumaient le feu comment? Alors seulement briquet à silex ou
À l'époque, c'était essentiellement le briquet à silex, oui.
Ce qui est robuste et ce qui fonctionne à coup sûr et qui dure toute une vie.
Exactement, ça peut durer toute une vie. À l'époque, il y avait des allumettes, mais c'était des allumettes avec le bout en soufre. Hein,
oui, les allumettes soufrées, ce n'est pas des allumettes que tu grattes pour avoir une flamme, c'est juste des allumettes que tu peux placer sur,
exactement.
Sur une braise.
Et il faut, malgré tout, pour allumer ces allumettes, bah, il faut une petite braise donc, créée par le briquet à silex. Donc le briquet à silex, ça reste la forme privilégiée pour allumer le feu à l'époque.
J'ai plus en tête l'invention du briquet à piston, je ne sais plus exactement. J'ai plus l'âge en tête, mais... Ouais, non, je vais dire une bêtise. Mais bon, le briquet à piston a voulu remplacer, en fait, le briquet à silex, parce que c'était super facile, tu t'appuies sur le piston et puis ça ressort. Mais il s'est fait tout de suite détrôner par les allumettes suédoises, celles-là que tu, qui te permettent d'obtenir tout de suite une flamme. Ouais. Mais sinon, au niveau des matériaux, tu vois, tu parlais de la laine tout à l'heure, et c'est quelque chose, étrangement, qui revient un petit peu à la mode. Notamment la laine bouillie, tu vois, ce qu'on appelle le loden, puisque c'est vrai que j'étais assez surpris, mais c'est une matière qui est extrêmement imperméable.
Oui, alors la laine a plein de... Et on s'en aperçoit en l'expérimentant, en la portant. La laine a plein de qualités. Déjà, s'il y a une trame serrée, ça va être imperméable. Ça finira par traverser une fois que ce sera imprégné, mais ça va mettre un certain temps à traverser. On s'aperçoit que c'est aussi une matière... qui est thermorégulée. C'est-à-dire que en reconstitution, on peut très bien porter en plein été des vêtements de laine sans en être hyper incommodé. Alors on va avoir chaud, bien entendu, plus chaud que si on avait un t-shirt, mais on ne va pas vraiment
Ouais, c'est très respirant.
Voilà. Ouais. Et en hiver, on peut porter une veste en laine comme celle-ci, juste doublée de coton ou de lin, et on n'aura pas froid. Donc c'est vraiment un matériau noble, et puis c'est un matériau qui, en le portant au quotidien en reconstitution, c'est un matériau qui a vraiment de gros avantages, et ça ne m'étonne pas que ça revienne à la mode. Même côté que d'autres matériaux beaucoup plus anciens.
Justement, la laine, j'en avais réentendu parler avec Gatien Rames, qui est chasseur alpin.
D'accord.
Et qu'on discutait des différentes technologies, etc. Donc, moi, je sais pas pourquoi j'ai une dent contre le Gore-Tex, parce que j'ai déjà vu des gens, tu vois, se payer des vestes imperméables et respirantes en Gore-Tex à 400 balles, tu vois, et être très content d'aller dans les bois avec. Et la première branche venue, te déchire le truc et tu pleures.
Oui.
Donc ça me faisait beaucoup rire, et puis après il m'a carrément interpellé, il m'a dit: mais est-ce que tu as déjà vu un mouton porter une Gore-Tex? Ah non, parce que en réalité effectivement la laine a cette vertu vraiment imperméable, et effectivement donc j'ai pu tester une veste en loden d'une marque que je ne citerai pas, et elle est extrêmement imperméable, elle est respirante, elle ne tient pas chaud, et Et pour le coup, c'est assez, comment dire, c'est assez léger comme tissu, c'est résistant, et j'aurais jamais soupçonné qu'une matière aussi ancestrale, tu vois, puisse avoir vraiment des vertus. Ouais. Mais en même temps, si nos ancêtres les portaient.
Oui. Alors, d'une part, ils les portaient parce que c'était la matière première la plus, plus facilement disponible. Hein. Un mouton, généralement, c'est proteste pas trop quand tu enlèves sa laine, et en plus ça repousse, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Alors l'évolution au niveau du port des vêtements en laine pour l'outdoor, c'est venu à partir, je dirais que l'évolution a suivi, si on suit ce qui se faisait par exemple dans l'armée, puisque c'était vraiment l'outdoor par définition, les vêtements en laine ont progressivement disparu pour donner place aux vêtements en coton et aux fibres un peu plus modernes dans les années, à partir des années 40, enfin je dirais que la fin de la Seconde Guerre mondiale a presque sonné le glas des vêtements en laine pour les forces armées, enfin les plus grandes, et pour après arriver à des vêtements en coton. Mais ça reste des vêtements qui sont même très, très résistants. On peut se traîner dans la boue avec, on peut courir dans la forêt avec, on ne va pas le déchirer aussi facilement qu'une glace en Gore-Tex ou autre. Et c'est confortable, c'est agréable à porter.
Bon, après, c'est un coût différent pour certains aussi. C'est... Bon, bref,
oui.
C'est un autre entretien. Et du coup, le fait de tester des matières comme ça ou de tester des procédés, est-ce que des fois la reconstitution, ça confine pas un peu à l'archéologie expérimentale ?
Si, complètement. Complètement, parce qu'on va devoir vraiment se réapproprier les gestes, comme on faisait tout à l'heure, de. Les allumettes soufrées.
Ouais, alors avant le podcast, on a fabriqué des allumettes soufrées, on a regardé un petit peu le pétrole, etc. On a posé une mine Claymore, ce qui correspond tout à fait
à l'époque.
À ton époque.
Exactement.
Magnifique photo.
Mais oui, puisque lorsqu'on va faire un week-end en reconstitution, on va être obligé de se réapproprier certaines astuces. Alors une autre époque que je fais, c'est la Première Guerre mondiale. Et... un jour, on a passé un week-end dans une tranchée, il neigeait, fallait bien se réchauffer. Et c'est là, on dit, mais comment il pouvait faire pour se réchauffer sans faire trop de fumée, sans... on a creusé une niche dans la paroi de la tranchée, on a fait du feu à l'intérieur de cette niche, la chaleur, et ça fait un très bon réflecteur. Les parois de la... Il y a deux... on se retrouve avec deux réflecteurs, avec les parois de la tranchée. Il y a la niche où on a fait le feu, l'autre paroi de la tranchée, et ça fait un très bon réflecteur, et le feu se diffuse à l'intérieur de la tranchée. Et je dirais que là, pour ce genre de choses, on est un petit peu plus loin, puisqu'on s'aperçoit que pour survivre, on disait, Première Guerre mondiale, on ne faisait pas de feu. Pour regarder ça, en ayant expérimenté ça, je dis, si, je pense qu'il devait bien faire du feu, des deux côtés, puisque quand il se les gelait d'un côté, il se les gelait de l'autre. Donc, par entente tacite, on laissait le voisin faire du feu pendant qu'on faisait du feu soi-même. Donc, c'est ces expérimentations-là qui permettent de voir, déjà, de trouver des petites astuces pour se réchauffer et puis de déduire d'autres choses sur les possibilités de faire du feu avec ce qui allait au-delà. Et ce qui, d'ailleurs, pour ce qui est du feu ou d'autres genres, ce qui a été confirmé par des témoignages d'anciens. On a beaucoup parlé des fraternisations de 14, mais les fraternisations, c'était aussi laisser l'autre faire du feu, par exemple, pour ne pas se les geler. Toutes ces petites choses, on retrouve les gestes à travers la reconstitution historique pour se les approprier. Donc, oui, effectivement, c'est presque de l'archéologie expérimentale.
Enfin, même si archéologie, pour le coup, là, on est dans une période qui est relativement proche. Mais...
Oui, alors je dirais oui et non, parce que maintenant, on se développe une archéologie des tombes 14-18. Surtout dans le Nord, où on ne peut pas tracer une portion d'autoroute, de route ou de voie ferrée sans tomber sur d'anciennes tranchées ou sans tomber sur des sépultures de soldats enterrés à la hâte.
Ou des caches d'armes.
Ou des caches d'armes.
Avec des grenades toutes pourries dont le manche tombe en lambeaux et du coup, on ne sait pas trop si elles sont encore prêtes à péter ou pas. Oui,
oui, oui. Oui. C'est généralement objet inconnu, touche à ton cul, comme on dit. Il y en a certains qui ont voulu en transformer en girouette avec un fer à souder. Ils ont essayé, ça s'est pas très bien passé. Mais il y a cette archéologie qui s'est développée depuis peu, et on s'intéresse à ces modes d'inhumation, souvent à la va-vite. Donc là, on retrouve encore l'archéologie, ça commence à poindre pour cette époque-là.
Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à recréer, toi là, par exemple, tu es déguisé en American.
Déguisé, tu as dit.
Oui. Costumé.
Voilà.
En American, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à s'approprier justement les cultures d'un peu d'ailleurs.
Ah bah alors là c'est aussi un point intéressant. Parce que quand on veut, alors on sera jamais, déjà on ne pourra jamais se mettre dans la mentalité de la personne de l'époque, puisque culturellement, que ce soit au niveau culturel, au point de vue religieux, au point de vue sociétal, ce sera complètement différent. Mais on peut essayer d'entrevoir ça, et si on le fait les choses de façon sérieuse, on va se documenter aussi, on va se documenter sur comment étaient les vêtements, comment étaient les équipements, etc. Mais on va aussi se documenter sur la vie quotidienne. Et en se documentant sur la vie quotidienne, forcément, on met un pied dans la culture et on essaye de l'apprivoiser un petit peu. Et puis, lorsqu'on passe un week-end costumé, on se met forcément un petit peu dans la peau du personnage, surtout si c'est une sortie reconstitution historique. En privé, on se retrouve qu'entre gens du monde, où là, on va être complètement dans le bain et on va forcément un petit peu se réapproprier le personnage. Ça sera un petit peu difficile parfois quand il faudra raccrocher les vêtements dans la penderie et remettre la tenue civile le dimanche soir, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Non, puis il y a aussi, quand tu incarnes un personnage comme ça, il y a aussi tout le contexte.
Oui.
Contexte politique, contexte social, etc. Donc techniquement, là, en gros, il y a ces saloperies d'Anglois qui te font chier parce qu'ils veulent absolument dire « ouais, c'est chez nous, nanana ». En même temps, tu as les autres gueules enfarinées de terre cuite, là, qui sont « ouais, ça, c'est mon terrain, nanana ». Donc, comment ça se passe, là ?
Ah bah, comment ça se passe ?
Là, tu vas dégommer de l'indigène et tu vas dégommer de l'anglais.
S'il y en a en face, si on peut faire mumuse lors de reconstitution, si on peut faire mumuse en faisant du bouée et de la fumée en tirant sur du teignec rouge ou des emplumés, c'est très bien. On s'amuse. C'est viril, mais correct.
Et du coup, les soldats de Sa Majesté aussi, ils en prennent
Sur certaines... Alors, c'est surtout... là, on est très minoritaire au niveau de... En France, à faire de la reconstitution historique, je dirais révolution américaine, il y a essentiellement deux groupes qui en font de façon de phare. Il y a les sujets du bien-aimé, c'est nous. Il y a le groupe Lafayette également, qui en fait, mais là, qui sont en uniforme continentaux, mais eux, l'uniforme de l'armée, hein, ce sont nos pendants en militaire. Mais je dirais que voilà, l'avantage de mon groupe, les sujets du bien-aimé, c'est qu'on est vraiment multi-époque, puisqu'on va très bien pouvoir faire du 18e. Le nom sujet du bien-aimé vient du roi Louis XV, puisque à l'origine, l'association faisait de la reconstitution époque Louis XV. Mais on fait aussi du conflit franco-prussien de 1870, on fait aussi 14, et on a d'autres projets derrière les fagots, dont je ne parlerai pas ici, mais on essaye toujours de sortir des sentiers battus et d'aborder des thèmes qui ne sont pas abordés, très peu abordés. On essaye de faire les choses qui ne sont pas traitées par ailleurs. Je dirais que des sujets qui ne sont pas à la mode, justement pour rappeler le petit truc, notamment pour 1870, on a commencé, on doit être peut-être le premier groupe à avoir décidé de reconstituer une unité de francs-tireurs. On reste dans les gens qui parcourent les bois et qui vont, qui se battront pas de façon conventionnelle, et donc de francs-tireurs de Mirecourt, et on s'est rapproché de la municipalité de Mirecourt. Alors les francs-tireurs à l'origine, lors de conflits franco-prussiens, c'était souvent des sociétés de tir ou des sociétés de chasse. Donc
des gens avec du beau matériel.
Exactement. Et les francs-tireurs de Mirecourt, il y avait je crois 86 bonhommes dans la compagnie, et donc on s'est rapproché de la municipalité de Mirecourt. La mairie a retrouvé des vieux documents dans un coffre-fort qui était planqué au grenier, des choses comme ça. Donc là, on avait fait d'ailleurs notre trek, un trek en tenue de franc-tireur de Mirecourt l'année dernière en Alsace pendant 2 jours. Donc là, on est en fait, en faisant ce genre de choses, on est invité d'ailleurs par la municipalité de Mirecourt, Et en faisant ce genre de choses, on est vraiment à la confluence de toutes les disciplines. Puisque là, on retrouve le bouboushcraft, l'outdoor, pour la partie vie dans la nature, ouais, dans la nature. Trek. On est dans la partie historique, puisqu'on évoque cet épisode de l'histoire de France. On est dans la partie recherche, puisqu'on va se plonger dans des documents complètement inédits qui ont été retrouvés il y a peu de temps. Et donc on est vraiment à la confluence de tout, au cœur d'un tout un tas de disciplines. Et on n'est pas dangereux, a priori, sauf peut-être...
Vous ne faites même pas du tir.
On n'a pas le droit d'utiliser nos pétoires.
Ah merde.
En vrai, mais j'ai fait du tir. Certains d'entre nous sont tireurs et certains d'entre nous font du tir à l'arme ancienne. Moi, avant de faire de la reconstitution, je faisais du tir à l'arme ancienne, donc à la poudre noire, en stand. Ce qui est aussi se réapproprier des gestes à l'ancienne, puisque là, le tir, ça va être presque une cérémonie comme le thé. C'est-à-dire qu'on va devoir charger l'arme, mettre la poudre, mettre la... La balle, l'amorce, prendre sa visée, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus prenant que de garnir un chargeur, que de garnir un barillet. Mais on reste toujours dans le même esprit de se réapproprier quelque chose. Et ce qui est important, on s'en rend compte en vivant un week-end en reconstitution, en faisant du tir de cette façon-là, c'est qu'on a un autre rapport au temps.
Parfaitement. Oui.
Puisque pour charger une arme, lorsqu'on fait du tir ou lorsqu'on fait une démonstration où on tire à 100 balles, faudra prendre le temps de charger son arme, faudra prendre le temps de nettoyer éventuellement le silex, nettoyer la platine, etc. Pour faire du feu, on le fera à un autre rythme. Pour faire la cuisine, on le fera à un autre rythme. Tout va se passer de façon plus lente. Et on aura l'impression d'avoir nos journées remplies, mais d'aller au fond des choses.
C'est ça.
De ne pas rester dans la superficialité. Ouais. Si on cherche les points communs avec le bushcraft et la reconstitution historique, on peut dire que ça en fait partie, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adeptes de bushcraft qui font ça pour se rapprocher de la nature. Sortir un petit peu
du rythme quotidien,
sortir du rythme quotidien, et ça reste encore un point d'enchantement entre les deux disciplines.
Ouais, tout à fait. Même ne serait-ce que faire du thé, faire bouillir de l'eau, etc.
Exactement, tout à fait.
Ça prend un temps fou dans la réalité. Oui. Alors que chez nous, on remplit la bouilloire électrique, paf, c'est parti, en 3 minutes, on a de l'eau bouillante.
Voilà. Alors, si on veut faire de la cuisine comme à l'époque, c'est aussi, aussi beaucoup de temps. S'il faut faire du café avec ça, ça prendra beaucoup plus de temps que de faire du café en mettant une dosette.
Une délicieuse dosette Nespresso de café.
Exactement.
Immonde.
Si on veut faire du pain, si on veut faire d'autres choses, on peut décliner ça sur plein de choses.
Et du coup, les reconstitutions, ça dure en général quoi ? Un week-end ? Ça peut durer plus longtemps ?
Ça peut durer plus longtemps, ça va dépendre de quel type de reconstitution. Alors on va dire que dans la reconstitution contemporaine, à part du tir de 14-18, on peut, voire même de 70, on va dire qu'il y a des sorties mémorielles et des sorties historiques. Les sorties mémorielles, ce sera à l'occasion du 11 novembre, du 8 mai, des choses comme ça, où là, il y aura une cérémonie. On va faire le pied de grue auprès du monument aux morts ou autre, et puis basta. Donc ça durera le temps de la cérémonie. Il y a certains camps, surtout sur des rassemblements multi-époques, où là on va y avoir toutes sortes d'époques de réunies sur des bivouacs dans le parc d'un château ou autre, qui durera généralement le temps d'un week-end. Ça sera sur deux jours, on va vivre avec du public qu'il faudra renseigner.
Multi-époque en plus.
Ah oui,
t'as des hussards, t'as des...
Exactement, on peut se retrouver
tout
sur
le monde est mélangé.
Sur certaines sorties. Je pense aux heures historiques de Silly-sur-Loire qui ont lieu généralement en mai. Enfin, c'était ça avant la guerre et bactériologique de Chine. Pendant le temps d'un week-end, on va se retrouver 1200 reconstitueurs de l'époque néolithique jusqu'à pratiquement nos jours, il y a quand même, avec des campements.
Donc tu as des GI avec des mecs qui sont en pagne léopard, quoi.
C'est ça, pratiquement ça. Et quand le public est parti, on s'amuse encore mieux. Donc on est chacun sur notre campement. Bon, ça fait un petit peu Saint-Jacques et on lance des cacahuètes, mais c'est très sympa. Donc le public va déambuler à travers les campements, nous poser des questions sur la vie quotidienne, sur ci, sur ça. Hop, c'est pas arrêté le...
Oui, il s'est arrêté, mais c'est ce que je dis toujours, c'est le podcast, il commence en vidéo, il se termine en audio, point barre.
D'accord, très bien.
C'est faudra, pas... tu vois, j'ai deux rêves, c'est que mes lecteurs me payent un Cybertruck et qu'ils me payent une vraie caméra. Voilà. 4K, machin, tout.
Donc voilà, pendant un week-end, bah, tu te retrouves comme ça avec, à jouer avec tout un tas de petits camarades. Et puis aussi, il peut arriver qu'on se décide de se faire un trek sur un week-end ou d'autres jours, où on se retrouvera en privé, sur un terrain privé, où on décidera de vivre pendant deux jours comme à l'époque, ou alors bah, de faire une marche pendant plusieurs jours. Et j'ai des amis qui sont allés faire ça aux États-Unis à l'époque guerre de sécession, où pendant une ou deux semaines, ils ont marché. Voilà, il y en a certains qui ont perdu pas loin de 10 kilos. Hein.
Oh, ça doit être génial.
Ah oui, où tu vis vraiment pendant... tu vis dans la verte pendant deux semaines, ouais, tu t'approvisionnes comme tu peux, tu...
C'est toujours des belles expériences, ça. Tu vois, quand je traversais l'Écosse avec mon sac à dos Quechua rempli de matériel Quechua, pas cher, mais rustique, quoi. Je me disais, purée, mais des mecs en kilt qui n'ont pas l'électricité et tout ça, tu sais, qu'ils doivent évoluer là-dedans, bah, tu m'étonnes qu'ils sont prêts à bouffer tout ce qu'il y a dans le mouton pour faire du haggish, quoi.
C'est, ah bah voilà, c'est ça.
Faut tenir le coup. Hein.
Exactement. Non, c'est le côté sympathique de la... De la reconstitution, justement, où tu vas te débrouiller avec ce que t'as. Et puis c'est le plaisir du soir, s'éclairer à la bougie avec la petite.
Avec la popote au feu de bois.
Exactement, tout à fait. Et quand tu raccroches, tu remets tes. Une semaine t'en après,
veux,
tu.
Non, merci. Un petit coup.
Non. Merci. Et quand une semaine après, tu vois, tu ressors tes frusques, ça sent encore bon le feu de bois qui est imprégné dans le cuir en plus.
Ah, c'est ce que ma femme me dit à chaque fois.
Et là, tu te dis, ah, on a passé de bons moments.
Ouais.
Donc, ça reste très sympathique.
Ah oui, oui. Mais jour, la fois où je t'ai vu, c'était la libération de Poissy.
Oui.
Déguisé en américain.
Ah non, non, déjà, c'était pas américain.
Costumé.
Voilà, c'était pas américain, c'était... la tenue était américaine, l'uniforme était américain, mais c'était 501e régiment de chars de combat, donc régiment de la 2e division blindée du général Leclerc. Donc, oui, mais moi, je suis...
Ah, t'étais en français
de... Oui, oui, français.
Ah oui, d'accord,
mais,
pour moi. Mais,
non, mais parce que... L'uniforme était américain, oui, oui, t'as pas tort.
Parce qu'il y a un mec qui a essayé de me niquer. Ah. Il était dans sa Jeep, tu vois, déguisé en américain. Ah ouais, là, là.
Alors là, tu peux dire déguisé pour eux.
Ouais. Et puis, sur la Jeep, il y avait le drapeau américain. Puis il me fait, ouais, mais il y a une erreur sur la Jeep. Je fais, bah ouais, le drapeau. Parce que c'est un drapeau avec 50 étoiles dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas 50 étoiles. Hé, j'y connais rien à l'histoire, mais quand même, moi, on ne la fait pas, tu vois.
Bravo.
Non, il y avait quoi, 48 à l'époque?
Ouais, je ne sais rien. C'est plus... C'est pas, je suis pas encore. C'est pas une époque. Voilà, je suis plus avant moi. Mm. Mais les véhiculistes, ouais, c'est une autre histoire. On va pas faire la guéguerre entre reconstitueurs et véhiculistes, parce qu'il y a certains véhiculistes qui sont aussi reconstitueurs. Mais généralement, les véhiculistes bichonnent leur véhicule, il est très bien. Mais au niveau tenue, au niveau costume et plus le reste, ça va pêcher un petit peu.
Donc spécial dédicace au magazine Véhicule Militaire, c'est ça?
Ah oui, non, mais magazine très bien d'ailleurs, hein. je recommande.
Très bien fréquenté, n'est-ce pas?
Très bien fréquenté, avec de très, très bons auteurs et tout le reste.
Hmm. Ouais, donc là, dans cette parade-là, il y avait quoi? Il y avait des jeeps, il y avait les camions médicaux.
Oui, mais il y avait aussi en plus des camions qui n'avaient rien à voir avec l'époque, qui étaient des camions de l'armée française des années 50. Alors qu'on était à la libération de Poissy, donc c'était en principe 1940. Mais bon, voilà, c'était des véhiculistes. Ah. On va pas, je vais pas gâcher leur.
Ouais, et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bon, c'est un truc, bon, on rigole entre nous, mais finalement, est-ce que la reconstitution et toute l'histoire et tout, c'est pas un peu facho sur les bords?
Bah si, parce que c'était mieux avant quand même. Ah mais ça c'est souvent une critique qu'on a, c'est récurrent. Oui, vous
vous aimez la guerre.
Vous aimez la guerre, vous faites l'apologie de la guerre, etc. Bah non, parce que je dirais que la plupart d'entre nous ont une très bonne connaissance de l'histoire et donc des horreurs de la guerre. Et puis, bah, on évoque une partie de l'histoire. Malheureusement, l'histoire est jalonnée de conflits. Et puis, l'intérêt du public, quoi qu'on en dise, même le public, bah, sera beaucoup plus intéressé par l'histoire de la guerre, quelle qu'elle soit. Mmh. Donc,
voilà. Non, mais c'est un discours que j'avais eu également avec mon copain Philippe Choisy.
Oui.
Qui est pugiliste entre autres et donc qui fait de la reconstitution. Lui, il est plutôt moyenâgeux, si je ne m'abuse. Quoique, je l'ai déjà vu déguisé en Apache.
Déguisé ?
Ouais. Oui, je suis exprès. Mais si, il a aussi. Comment dire ? Il a des ascendances écossaises. Et du coup, tu le vois des fois manier les fameuses épées écossaises, là, les claymores, justement,
oui.
Avec le tartan, tout ça.
Très bon groupe écossais, ouais. Il y a un très bon groupe écossais du côté d'Orléans qui s'appelle Sarah Alba, qui eux reconstituent, sont un groupe de reconstitution époque jacobite. Donc, ils sont fort sympathiques, fort pointus dans ce qu'ils font. Et,
Est-ce qu'ils aiment la série Outlander ?
Je leur ai pas demandé. Je leur ai pas demandé. Ouais.
Mais toi, je t'ai déjà vu en écossais aussi.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est pas la même époque.
C'est pas la même époque, et moi je suis en écossais lorsque je joue de la cornemuse. Je suis venu à la cornemuse, enfin je suis venu en écossais en jouant de la cornemuse.
Et je suis venu dans ce sens-là.
Oui, et je suis venu à la cornemuse parce qu'on m'a proposé d'intégrer le groupe écossais de l'armée écossaise, mais on m'a dit, bah oui, mais... faut raser ta barbe si tu rejoins l'armée écossaise, parce que l'armée britannique, la barbe est pas réglementaire. Je dis, ah ben non, je ne raserai pas ma barbe, hors de question. Et ben dans ce cas-là, apprends à jouer de la cornemuse, parce que les pipers ont le droit de porter la barbe. Je me suis dit, bah même pas peur, je vais apprendre à jouer de la cornemuse pour ne pas raser ma barbe. Donc voilà, comme je suis arrivé à jouer de la cornemuse pour ne pas raser ma barbe.
Et défiler en kilt.
Et défiler en kilt. Bon, bien sûr, je dirais pas s'il est porté de façon réglementaire ou pas, ça ne se fait pas.
Oh, c'est quand même toi, je me souviens très bien. Tu sais, j'avais été faire une randonnée en kilt dans les Alpes.
Oui.
Et je t'avais envoyé des photos. Alors, tous les gens me regardaient bizarrement et tout, c'est quoi cette huluberlue ? Et d'ailleurs, je me souviens très bien de touristes néerlandaises qui me regardaient, mais avec des yeux mais horrifiés, tu sais, comme si j'étais un odieux satyre.
Et, tu es un odieux satire.
Ouais, oui, mais je le dis pas ouvertement. Et j'étais tout en haut dans un pierrier, tu sais, un truc complètement casse-gueule et tout. Et elles étaient en tongs. Donc en fait, je me suis foutu de leur gueule, tu vois. Moi, j'ai beau être en kilt, mais au moins j'ai des chaussures de marche. Je risque pas de me casser la gueule. Et je me souviens très bien que je t'avais envoyé la photo, tu m'avais fait oui, mais un kilt, ça se porte sans rien dessous. Sinon, ça s'appelle une jupe.
Exactement. Réglementairement. C'est d'ailleurs pour ça que. Le soldat écossais, quand il devait partir en permission, passait devant le sergent qui devait regarder si sa tenue était tout à fait réglementaire et tout. Et il y avait un miroir fixé sur le sol, ou un miroir au bout d'une perche, pour de façon à ce que le sergent puisse vérifier que la tenue était réglementaire. Et c'est aussi pour ça que les autobus impériaux à Londres, le deuxième étage, le premier étage, pardon, des autobus impériaux étaient interdits aux soldats écossais. Parce que, en levant les yeux, la bonne société londonienne aurait pu être.
Je suis jamais monté là-dedans. Il y a quoi ? Il y a une vitre ? Il y a un endroit ? Enfin, il y a un.
Non, mais au moment où. Lorsqu'on monte à l'étage ou à l'étage ou autre, on peut voir sans doute en dessous. Donc, les soldats écossais, dans les tranchées, je crois que. Le caleçon pour les soldats écossais a été rendu réglementaire et ils ont eu cette possibilité dans les tranchées parce que effectivement là ils se gelent les cacahuètes au propre comme au figuré. Et donc là on les a autorisés pour raison médicale ou autre à porter un caleçon D'accord. sous le kilt.
Parce que quand même leurs terres ne sont pas forcément super hospitalières non plus en hiver.
Ah non, les Highlands c'est pas. C'est pas génial. Tu as dit, le kilt est très confortable à porter.
Oui, ça c'est vrai. Mon seul regret, c'est que c'était un truc en... un peu tactique. Là. Enfin, oui, pas oui, tactique, mais enfin, c'était pas le tartan. Tu vois.
Oui, oui. Ah, bah, mais l'appellation, oui, il y a l'appellation kilt tactique. Mmh. Puis, oui, donc le tartan. Et pour la petite histoire, tu sais combien il faut de mètres de tissu pour faire un
kilt? Ah oui, c'est, ouais, je sais plus, mais
8 mètres en
ouais,
gros.
C'est un, j'aurais dit 6, tu vois.
Oui, ouais. Parce qu'il y a tous les plis derrière et justement, tu parlais d'Outlander. Mm. À l'époque, c'était pas le kilt, c'était le plaid.
Ah, plaid.
Et donc, c'était qu'un simple carré de tissu qui devait faire peut-être 1,50 m, 2 mètres par 7 mètres, que tu devais plisser à la main. Mm. Et avec une ceinture, tu le ramenais et, pour te faire cette ceinture. Et ça servait à la fois de couverture, d'abri, tout ce que tu voulais.
Ouais, multifonction, quoi.
Exactement.
Ce qu'on recherche.
Ce qu'on recherche dans le bushcraft.
Ouais,
donc,
exactement.
bushcrafter, porter le plaid.
Mais sans rien en dessous, sinon c'est une jupe.
Mais sans rien en dessous, sinon c'est une jupe.
Ouais. Bon, bah avec toutes ces belles choses-là, on peut te retrouver dans quel magazine ?
Dans beaucoup de magazines de la même crèmerie. Hein,
entre de la autres, Sainte Crèmerie.
De la Sainte Crèmerie. Dans Uniforme, notamment. Ça m'arrive aussi parfois de commettre des articles pour opérations spéciales. Et puis éventuellement, pourquoi pas un article à quatre mains écrit pour Survival sur le bushcraft.
Ah mais si, je t'ai déjà vu dans American Legends aussi.
Aussi dans American Legends, ouais, aussi. Oui, ouais. J'ai aussi écrit pour un article sur un peintre américain qui peint justement sur la Révolution américaine, oui, et la guerre de sécession, qui s'appelle Troiani. Donc on peut me retrouver dans ces magazines. Et j'ai aussi commis un ouvrage sur les fantassins de la Première Guerre mondiale qui est sorti il y a un petit bout de temps, maintenant en 2018.
Extrêmement bien illustré.
Merci.
Très très
bon. Mais très bonne maison d'édition, très bon magazine avec des rédacteurs en chef fort sympathiques, intelligents et qui plus ils sentent bon.
Voilà, c'est ce que tu avais dit la dernière fois, oui, tout à fait. Voilà. Et pour ceux qui suivent mes petites aventures, eh bien, Christophe est la personne qui m'avait recruté pour Survival. C'est à cause de lui en fait.
Oui, mais c'est une bonne pioche. Hein.
Bah, j'espère.
notre Dulce bien-aimé nous le dit souvent. Nous le dit souvent.
Ouais, je me souviens du petit cours Maxime, c'est ça, qui était venu.
Oui.
Qui était venu en fin d'heure avec le petit magazine et puis une petite lettre.
Il m'avait expliqué ça, mais j'imagine.
Mais que par contre, ouais, c'est marrant parce qu'à l'époque, tu vois, je ne montrais absolument pas ma gueule sur les réseaux sociaux. Je ne voulais absolument surtout pas. Ah, j'ai été grillé quand même.
Oui, mais je crois qu'il t'avait repéré à cause de ta montre.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est
bon. Alors, il m'a dit « Papa !» Et j'ai dit « Ouh, mais celui-là, je ramènerai bien son scalp au patron. Il m'a pas l'air très bien, ce petit gars-là. » Et voilà, parce que t'en es à combien de temps
Oh, seulement... cette année, ça devrait faire seulement 11.
Peu 11. Effectivement, c'est peu.
Ouais, c'est une logorée de papier, ouais.
Non mais c'est bien, ça te permet en plus de, avec le matériel que tu peux expérimenter, etc., qu'on peut t'envoyer, ça permet de... C'est un cercle vertueux.
Ouais, j'espère, ouais. Mais après, bon, tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est qu'on n'invente rien, on est tout le temps dans la redécouverte de ce qui se faisait avant, et que ce soit le bushcraft ou la reconstitution. Hein. Mais par contre, je pense que c'est des choses qu'on devrait tous avoir, tu vois.
Oui.
Alors, on entend beaucoup, là, à la période où on enregistre, que les survivalistes fachos vont s'entraîner dans les bois, faire des camps d'entraînement, etc. Mais, j'arrête pas de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de facho à aller allumer du feu dans les bois, juste pour le plaisir d'être dans les bois, quoi. Mais, et de retrouver ce que nos ancêtres faisaient, quoi.
Voilà, j'irai même plus loin, parce que c'est aussi une façon de vivre, puisque petit à petit, avec la reconstitution historique, j'en suis venu, moi, à la maison... à fabriquer mon propre dentifrice en poudre pour garnir ma trousse de toilette quand je suis en reconstitution. Et puis de fil en aiguille, réutiliser les produits anciens, bicarbonate de soude, cristaux de soude, ouais, savon noir, et ce qui est une tendance tout à fait actuelle et ce qui est complètement dans la droite ligne.
Ce qu'on appelle éco-responsable.
éco-responsables, zéro déchet. Bonjour Isaline, d'ailleurs, je te fais une petite dédicace à ce sujet, voilà, hein, tu sauras pourquoi. Et puis, donc c'est venu, donc effectivement, je pense que on pense tous les deux à l'article de l'Express. Non, on est
L'Express ou Libération,
peu importe. Hein, voilà, mais en l'occurrence, souvent, l'Express a sorti cet article récemment en disant que, en faisant le parallèle entre survivalistes et fachos, extrême droite, ultra droite, etc. Mais non.
Ultra giga méga super droite.
Très 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 très. Ou ultra giga super méga gauche aussi. Hein. C'est les mêmes choses.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et effectivement, c'est pas du tout notre. Ces gens-là ont une vision apocalyptique du monde et attendent le grand effondrement. Nous, on se fait que se réapproprier des gestes anciens et en étant en plus éco-responsables.
Oui, c'est ça. Même, regarde, quand je t'en parlais, hein, quand je suis parti en Écosse, moi je suis parti avec du gel douche, du dentifrice, des trucs comme ça, même tous les produits. Même là-dessus, on peut avoir une réflexion. Quoi. Désormais, j'ai un petit savon bio au charbon, etc.
Oui.
Le dentifrice, pareil, tu vois, c'est de la poudre de charbon avec des cristaux de menthol. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui, finalement, c'est des recettes anciennes qui reviennent au goût du jour, juste parce qu'on se rend compte, en fait, c'était pas trop de la merde ce qu'on faisait avant. Quoi.
Exactement. Moi, maintenant, j'utilise plus que du savon de Marseille pour tout. Le dentifrice, je m'amuse à le fabriquer. Donc, en plus, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un coût économique. C'est pas juste. Alors, avec de l'argile douce, du bicarbonate de soude, un petit mélange, des huiles essentielles de menthe, c'est très économique. C'est complètement naturel. Il n'y a aucun produit suspect à l'intérieur. De la même manière que pour nettoyer les chiottes, pour nettoyer mon sol, etc. C'est du savon noir éventuellement avec quelques huiles essentielles, avec un peu de cristaux de soude et des choses comme ça. Ça marche très bien. Et puis, on veut détartrer la cuvette des toilettes. S'il y a du tartre, un peu de calcaire, alors qu'est-ce qu'il faut? Si on fait un petit peu d'acide, on va prendre du vinaigre blanc. Il y a besoin de dégraisser le plan de travail dans la cuisine, on va prendre des cristaux de soude. Et ça marche très bien. Et en faisant nos petites recettes chimiques avec quelques produits de base, on arrive à couvrir toute la palette des besoins ménagers.
Même la lessive.
Oui.
La lessive à base de lierre ou la lessive à base de savon de Marseille.
Oui.
Plutôt que d'aller acheter ton flacon qui pèse 4 kilos à chaque fois.
Oui, je suis bien d'accord.
Qui dure pas.
Je ne me suis pas encore mis à la lessive.
Alors certes, tu n'auras pas l'odeur fruits des bois ou océan pur ou lilas printanier.
Tu peux mettre des huiles essentielles, rajouter des petites choses.
Ce qui compte, c'est que ça sente le propre.
Voilà, ça ne sente pas le fennec, mais c'est tout aussi efficace. Donc je crois que ce soit la démarche Bushcraft, que la démarche reconstitution historique, là-dessus on se rejoint. La démarche Bushcraft va aller vers ses produits plus peut-être à travers une optique éco-responsable, zéro déchet, etc. La reconstitution historique va y aller vers une optique historique, mais on va se rejoindre complètement au bout du compte.
C'est ça.
Donc conclusion, la prochaine fois qu'on fait un trek en tenue d'époque, on t'invite et on te déguise.
Ouais. Hein,
on te déguise et puis tu viens avec nous.
Ouais.
De toute façon, allumer un feu avec un briquet à silex, c'est faire.
C'est branlette, ça. Ouais, c'est facile, ça, encore.
Donc voilà. Donc, pas de,
D'ailleurs, à chaque fois que je pars en bivouac, moi, c'est ma méthode préférée, le briquet à silex.
Alors j'ai un Firesteel à la maison, mais je dirais que je préfère utiliser le briquet silex.
Briquet silex, Firesteel, ça m'est arrivé d'en casser, ça m'est arrivé d'en user. Par contre, le briquet silex, il va durer toute une vie, même plus.
Oui.
Enfin, c'est robuste, sais que ça va fonctionner. Alors c'est juste qu'il y a le coup de main à prendre, il faut le bon matériau pour prendre la base.
Il faut le bon matériau, il faut.
Mais c'est juste un bout de métal en fait.
Le coup de main, ça va faire moins d'étincelles qu'un Firesteel. Mais ça va très bien marcher. D'ailleurs, on s'en est servi, c'est impeccable.
Puis moi, j'ai toujours ce petit plaisir dans l'endroit où je suis, tu vois, d'aller chercher des matériaux pour faire un nid.
Oui.
Tu vois, tripoter les herbes, les feuilles, les épines et tout, les aiguilles de pin, machin. J'adore faire un petit nid, tu vois, le malaxer et tout. Je trouve que c'est très charnel. Mmh. C'est presque un côté un petit peu fétichiste. Quoi.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Et puis souffler dessus et tout.
Alors, ouais, ouais. Ça... Tu fais naître.
Tu fais naître des flammes depuis le néant. Quoi.
Exactement. Et moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que le bushcraft. Je suis venu au bushcraft par la reconstitution historique et par la lecture du bouquin d'Alban Camp. Je te présenterai un gars très bien.
Je connais pas.
Je te présenterai éventuellement. Tu verras ce qu'il écrit. Voilà. J'ai peur que ce soit un survivaliste extrémiste, mais bon.
Non, surtout pas ça. Oh mon Dieu.
Et c'est la même chose.
Si en plus il était fonctionnaire.
Oh, ça m'en parle pas. Ouais, je sais ce que c'est. Hein. Mais c'est ça. C'est se réapproprier quelque chose.
T'as eu droit qu'à une seule tasse de vin, je te signale.
Oui, c'est vrai. Mais à partir de rien, on prend l'exemple du feu, mais ça va être à partir de bricoler des petites choses. C'est le plaisir de se savoir qu'on peut être capable de se substituer à quelque chose. J'ai du mal.
C'est dur, c'est la fin de journée là.
Voilà.
Couvre-feu, mémé, là, va falloir rentrer.
Oui, je sais pas quelle heure.
Comme à l'EHPAD.
On se substitue à cette société de consommation qui nous fait penser qu'on est incapable de faire quoi que ce soit.
C'est ça, ouais. Bah, on en a eu l'exemple quand on venait. Hein.
Oui.
Pour le bouffadou.
Oui, enfin, voilà.
Le petit tuyau, un petit tuyau creux sur lequel on va souffler sur les braises pour attiser les flammes et tout. Alors, vous avez le choix. Hein. Soit vous le fabriquez à partir de sureau, qui a une tige bien creuse. Alors, je sais pas comment tu les vides, mais cintre.
Avec un cintre, moi, c'est voilà, ce que j'avais utilisé, un cintre
fil de fer. Le mieux, c'est de faire bien chauffer d'ailleurs l'extrémité, comme ça brûle la moelle à l'intérieur.
Exactement, c'est ce que j'avais fait. Donc, tu le fais brûler.
Voilà, tu souffles dedans parce que c'est creux, ça fonctionne très bien, c'est un bout de bois. Ou alors, tu vas dans une enseigne qui prône l'environnement et les inventions.
Ça commence pas par nature et ça se finit pas par.
Ouais, un truc comme ça. C'est une parfumerie, surtout.
Oui.
Et tu dépenses une bonne vingtaine d'euros pour t'offrir un espèce de tuyau métallique télescopique qui remplit exactement la même fonction.
Exactement. Moi, je préfère le fabriquer moi-même.
Ouais, c'est plus rigolo, quoi.
Je sais pas où est le mien, d'ailleurs. Faudra que, en revenant, tu me fais penser à couper une tige de sirop.
Mais ouais, voilà. C'est juste remettre les mains dans ce truc un peu foufou qu'on appelle la forêt, là, tout enchevêtré de plantes.
C'est mal tenu ces forêts parce qu'elles sont pleines d'arbres. Je suis pour les arbres en plastique et puis bétonner en bas pour que ce soit un petit peu plus.
D'ailleurs, on voit bien qu'à côté, tu vois, ils ont loupé leur coup parce que tu vois, ils ont tout coupé. Ils auraient pu faire un beau parking.
Oui.
Mais je sais pas pourquoi ils se sont mis à replanter des trucs. Bon, tu me diras, au moins ils ont replanté que la même chose, au moins c'est bien ordonné, c'est...
Exactement, c'est ordonné.
Prépare la forêt de demain.
Une forêt de demain, bien ordonnée, sans une feuille qui dépasse.
Carré, tac.
Voilà. Pas d'anarchie.
Voilà. Bon merci beaucoup.
Ce fut un plaisir.
J'espère qu'on n'a pas dit ce qu'on
je pense pas, ça a été.
C'est pas répréhensible pour la loi.
A priori non.